Bonsoir. La voix vous accueille pour vous rejoindre sur vos chemins. Soyons attentifs.
Je vois pas très bien. Et l'avantage quand on voit pas bien, c'est que on n'est pas parasité par ce qu'on voit. Donc j'ai moins ce problème que les personnes vis-à-vis de moi.
Extraordinaire. C'est-à-dire que il vaut mieux être aveugle parfois.
Disons qu'on voit autrement. On perçoit les gens autrement. Et donc on n'a pas ce conflit entre ce qui est perçu par les yeux et ce qui est perçu par d'autres sens.
Oui, c'est-à-dire, tu dirais qu'il y a une différence entre le paraître et l'être, on a moins la tentation de juger, de regarder, d'évaluer les choses en fonction de leur apparence.
Voilà. En tout cas, on a plutôt un regard sur une autre apparence. Parce qu'après, ça ne dispense pas d'avoir des jugements.
Oui.
Mais disons que le jugement n'est pas... ne se situe pas au niveau de ce qui est perçu par les yeux.
Et est-ce que cela voudrait dire que du coup, tu ne perçois pas comment les gens te voient, comment l'apparence, ou est-ce que tu as un sixième sens qui te permet peut-être de percevoir, sinon de voir la réaction des gens ou comment les gens perçoivent les choses autour de toi?
À vrai dire, je le sais parce qu'on me le dit. Par exemple, quand je suis dans le métro, personnellement, je ne fais pas attention au regard que les gens portent sur moi. Mais par contre, les personnes qui m'accompagnent, elles, ils sont très attentifs. Et je sais qu'il y a un regard sur moi qui va peut-être pas être très ajusté par rapport à la réaction de la personne qui m'accompagne. C'est pas moi.
C'est intéressant. Donc, je crois que ce sont les auxiliaires de vie, c'est ça? Comment on les appelle aujourd'hui,
hein? Les auxiliaires de vie ou mes amis.
Et qui deviennent tes amis, d'après ce que je comprends, d'après ce que je sais. Mais en fait, c'est vrai que cette expression est quand même assez belle en soi, l'auxiliaire de vie. Et alors, tu dis que c'est la réaction de ces amis qui t'accompagne, que tu perçois grâce à... Par exemple, qu'est-ce qu'ils te disent?
Ils s'agacent, par exemple.
Ils s'agacent.
Donc, de fait, la différence suscite des réactions. Et ce que je constate, c'est que quelle que soit la réaction, ça provoque un agacement, juste simplement parce qu'il y a une réaction.
Alors, c'est intéressant. Pourquoi ceux qui t'accompagnent, tes amis qui te connaissent évidemment et qui justement eux peut-être ont l'avantage par rapport à ceux qui sont dans le métro, dans la rame de métro, eux ils te connaissent autrement. Ils te connaissent pas que comme les gens du métro qui ne te connaissent pas, qui ne voient. Qu'est-ce qui les agace? Pourquoi ils supportent pas? À ton avis, qu'est-ce qu'ils supportent pas?
Alors moi un jour j'ai dit à une amie, parce que ça m'agaçait du coup qu'elle s'agace.
Exactement, voilà. C'est ce que je pensais, oui.
Je lui ai dit, peut-être que finalement, ce qui te dérange, c'est que ça te renvoie une image aussi de toi. C'est-à-dire que parce que tu es vu avec moi, finalement, il y a quelque chose de mon image qui va être transféré sur toi. Et je pense que finalement, il y a peut-être quelque chose en toi à creuser vis-à-vis de ton propre regard. Sur moi, il y a peut-être quelque chose dans ton regard qui n'est pas ajusté aussi. Et si c'était plus ajusté, ça t'agacerait moins.
Oh là là, mais ça, on va loin là. Ouais, on va très loin, puisque en quelque sorte, tu es en train de dire que tu éduques le regard, ou que tu invites en tout cas, parce que je sais bien que c'est pas toi, mais que tu invites l'autre à éduquer ce regard. En fait, le regard, comme tous les autres sens, ça s'éduque, c'est-à-dire ça s'apprend, on apprend à regarder. C'est-à-dire qu'on croit qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour regarder, mais en fait, non, parce que qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien. C'est quand on apprend à regarder qu'on regarde autrement. Et c'est ça que tu voulais un peu, enfin, entre autres, transmettre à cette amie, que son regard peut-être avait besoin d'être ajusté, qu'elle avait besoin de lunettes finalement.
Oui, alors, plus que des lunettes, moi, j'invite surtout à essayer d'avoir un regard de vérité. C'est-à-dire ne pas se faire de fausses images de ce qu'on voit, même quand cette image, elle est positive.
Ah, même quand elle est positive.
Voilà, ne pas se mentir. Et une fois qu'on arrive à avoir un regard de vérité, finalement, on peut mieux l'accepter et à ce titre être en paix avec le regard des autres.
la question hein, d'un regard de vérité sur le corps. Parce que concrètement, en tout cas pour l'instant, mais on va aller bien plus loin, il y a la première chose que nous voyons les uns des autres, c'est nos corps respectifs, l'apparence de nos corps, grand, beau, fort, jeune, vieux, c'est ça qui nous frappe en premier lieu. Et du coup, on se fait une image.
Oui, tout à fait, on se fait une image, et cette image, elle est souvent en lien avec nos idéaux. Voilà.
Ah.
On a des idéaux, et sans parler des personnes qui ne me connaissent pas, mes propres amis ont aussi un idéal de moi.
Ah. Par exemple. Une image idéale ?
Oui, une image idéale, c'est-à-dire, par exemple, il y en a qui me disent, mais pour moi, t'es pas différente.
Ah.
Alors là, ça me pose un petit problème quand même.
Ah, intéressant. Ouais. Donc effectivement, ce que tu sembles dire, c'est que, en quelque sorte, leur image, c'est d'effacer la réalité.
Voilà.
En partie, ou en tout cas, de l'amadouer.
Voilà, de la
c'est ça
et de la, oui, c'est ça, et de la faire correspondre à un idéal,
oui,
finalement.
Oui,
voilà.
Est-ce que tu dirais, ou pas, même la faire correspondre à une idéologie ?
Oui, à une idéologie, à une culture.
Quelle serait cette idéologie, cette culture, à ton avis, ou comment tu perçois les choses,
alors,
vu ta position ?
Alors, par exemple, vu mon âge, c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait rigoler, qui sait s'amuser, faire la fête, prier, voilà. Et on oublie tout ce qui est de l'ordre, on va dire, de la difficulté.
De la difficulté, voilà. De la différence.
De la différence,
juste
voilà,
avant. Ouais. Et donc, on veut garder que l'aspect qui est semblable.
Voilà.
Hein, on veut garder que ce qui est miroir, et plutôt miroir, évidemment, on ne garde dans ce miroir que l'aspect positif, hein, que des choses positives. Voilà, comme tu le dis, le dynamisme, c'est rigoler, ça je suis témoin. voilà, elle a une réflexion, elle nous amène loin, elle nous fait réfléchir, elle nous pose, elle nous renvoie des questions et en même temps elle répond. Enfin, donc elle est normale.
Up all night.
Telle est la question.
Telle est la question. Puisque quand ils me le disent, pour moi, tu n'es pas différente. Donc, c'est qu'en fait, on est différent.
Voilà, oui.
C'est le paradoxe de l'idéologie. Ouais. Une idéologie qui dit, non, pour moi, tout le monde est pareil, mais le seul fait de devoir l'affirmer de cette manière-là, est-ce que c'est pas qu'on essaye de fuir?
Voilà, une certaine différence, une certaine disparité.
Ouais.
De fait. Et ça, je crois que c'est plus grave que de pointer du doigt une différence.
Mm-hmm.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le regard des enfants.
Ah.
Voilà.
Oui, parce qu'effectivement, eux, ils n'ont pas tout ce qu'il y a dans la tête des adultes, c'est ça?
Et du coup...
Par exemple, est-ce que tu peux me rapporter des réflexions d'enfants?
Ah, mais pourquoi elle est petite?
Pourquoi elle est petite?
Voilà.
Exactement.
Voilà.
Parce que tu es petite.
Voilà.
Est-ce que tu es petite, Carolina? Ça, c'est une bonne question.
Ouais, c'est ça.
Comment tu dirais les choses?
Objectivement, je dirais que oui. Quand
voilà.
Même.
Au niveau de ton corps, tu dirais que oui.
Oui.
Mais qu'est-ce que c'est la petitesse? Et l'enfant, c'est ça qu'il voit. Pourquoi
elle est
petite?
Voilà, c'est ça qu'il voit. Il voit aussi... Alors, les tout petits enfants,
oui.
Ils voient quelqu'un avec qui ils ont envie de jouer.
Génial.
Ouais.
Tu leur fais pas peur.
Ils voient une copine, ils viennent vers moi.
Et pourquoi? Pourquoi tu dirais qu'est-ce que tu penses qui les attire? Qu'est-ce qui leur permet cette facilité que n'ont pas les adultes, apparemment? Ou pas toujours, en tout cas.
Peut-être qu'il y a quand même aussi l'effet miroir, parce qu'ils nous voient petites comme eux. Mais ceci dit, ils sont pas bêtes, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose de différent.
Ah!
Voilà.
C'est ça qui est génial.
Oui, c'est ça. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui fait qu'ils viennent, ils me font des grands sourires.
Excellent, c'est super.
Voilà, alors un enfant n'en égale pas un autre. Il y a des enfants qui réagissent plutôt violemment, mais parfois, c'est aussi pour attirer l'attention, c'est pour susciter. Et d'ailleurs, quand je joue du coup avec eux, ça passe aussi très vite. Ça se passe très très vite avec les enfants.
C'est ça qui est formidable. Parce qu'en fait, probablement aussi, parce qu'ils n'ont pas d'état de filtre.
Ils n'ont pas
d'état de projection. C'est un peu ce que tu disais avec l'image idéale. Ils n'idéalisent pas, ils ne projettent pas. Si je prolonge un peu ton idée, si je comprends bien, c'est un peu comme au cinéma, on projette une image. Hein, ce n'est pas le réel. Hein, on le refabrique, on le formate, on le cadre. Hein, et donc, la tentation, quand on est adulte, c'est de se créer un cinéma, de formater les choses pour que la réalité rentre dans le cadre. Et quand elle ne rentre pas, essaye quand même de le coincer dans le cadre.
Et alors là, il y a deux réactions qui sont très, très représentatives de tout ça. C'est donc la réaction de l'adulte.
Oui.
Qui accompagne l'enfant.
Et oui, l'adulte qui accompagne l'enfant, bien sûr. Ah. D'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, tes amis qui t'accompagnent, leur réaction, et là, maintenant, de l'autre côté, de ceux qui regardent, la réaction de ceux qui... de l'enfant et de l'adulte qui l'accompagne.
Et,
oui.
Et d'ailleurs, il est le même.
Pardon?
Et c'est la même réaction. C'est-à-dire qu'il va y avoir, souvent une gêne, donc un agacement.
Voilà.
En fait. Face à cette question qui est une question de vérité, je veux dire, pourquoi elle est petite? C'est normal qu'il pose la question.
Mais oui,
voilà.
Mais oui.
Et une fois, je pense, vraiment une fois, il y a un monsieur qui est venu et qui m'a dit, ça vous ennuie si je lui explique?
Ah.
Et là, j'ai trouvé que c'était mais génial.
Ah, ça, c'est une belle réaction.
Ouais, c'était
une réaction humaine, incarnée, concrète.
Oui, ouais, c'est ça.
Car l'enfant a besoin qu'on lui explique, il pose des questions, et il a raison de poser des questions. C'est bon qu'un enfant pose des questions, c'est quand il n'en pose plus que c'est un problème.
Voilà. Il faut pas il y a une tendance à culpabiliser l'enfant.
Oui.
Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Alors moi, toujours, je leur réponds, parce qu'ils en ont besoin, et puis en plus, ça les fait réfléchir dans leur petite tête.
Oui.
Ils peuvent être très étonnants, après.
Oh, oui.
Et puis, ils retiennent, hein.
Et ils retiennent, ça les marque.
Oui, ça les marque.
Est-ce que tu penses à certaines situations où cette réflexion, cet échange, te souviens de telle ou telle chose qui te montre, toi, que quelque chose s'est passé dans cet échange avec les enfants?
Moi, c'était un petit garçon qui faisait une bonne colère à sa maman dans la poussette.
Oui.
Et du coup, moi, j'essayais de... Là, pour le coup, c'est moi qui attirais son attention.
Oui.
Et donc, lui, il me rejetait parce qu'il voulait montrer qu'il existait.
Oui.
Et puis, à la fin, c'était juste le temps de monter dans l'ascenseur.
Mm-hmm.
Je lui ai dit au revoir. Et il m'a fait un grand sourire, il m'a dit au revoir. Et sa maman était toujours nerveuse parce qu'elle s'en était pas remise de la colère qu'il était en train de lui faire depuis un petit moment, je pense.
Oui, oui.
Mais voilà, l'enfant, il a eu. Il a été apaisé.
Ça l'a apaisé.
Voilà, il a été apaisé.
Ça l'a apaisé. Un don qui apaise, qui transmet.
Je pense que oui. Enfin, faut pas avoir peur des mots parce que ça me dépasse. Certes, il y a ce que j'y mets, la bonne volonté que je peux y mettre.
Mm-hmm.
Je l'ai toujours mise parce que j'ai toujours été en contact d'enfants.
Mm-hmm.
Mais on va dire que depuis un certain temps, mm-hmm. petites années,
mm-hmm.
y a autre chose qui se passe,
mm-hmm.
et mm-hmm. Qui travaille à la fois le parent, à la fois l'enfant.
Oui.
Voilà.
Oui.
Parce que je déculpabilise aussi le parent.
Exactement. Tu permets aux parents, si je comprends bien, hein, mais tu me corriges, faut pas hésiter, hein, tu permets aussi aux parents de se resituer d'une manière juste.
Oui, c'est
hein,
ça.
Dans une parole de vérité, oui, mais oui, elle est petite.
C'est
elle
ça.
Est petite, et alors
voilà.
Partons de là, partons du réel, et non pas de l'image, effectivement, hein, pas de l'idéal.
Et de l'acceptation que la différence pose question. Il y a quand même un vrai problème. On ne veut pas accepter aujourd'hui. Que la différence puisse susciter un étonnement.
Oui.
Voilà.
Oui.
Bah oui, c'est normal.
Et
même entre personnes différentes, on est interpellé par
Absolument.
La différence de l'autre.
Absolument.
Et on n'est pas plus généreux, plus tendre, plus
oui.
Délicat, des fois. On
oui.
peut manquer aussi de délicatesse.
Oui.
Et voilà, et ça fait partie de l'humanité. Et je crois que vraiment, il y a un grand besoin de déculpabiliser par rapport à nos propres réactions
oui.
face à la différence.
Oui.
Elle montre qu'on est vivant.
Exactement.
Ouais.
Et moi, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est ça me semble passionnant, mais surtout très juste, très fort, c'est on n'accepte plus l'étonnement.
Oui, c'est ça.
Tout doit être prévu.
Mm.
Tout doit être calibré. Tout doit être formaté. Trop. J'espère qu'il n'y a pas que ça. Mais quand même, c'est vrai qu'on se laisse difficilement surprendre.
Oui.
On est dans des périodes de Noël. Il faudrait quand même garder la surprise.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a plus de surprise.
Il n'y a plus de surprise.
On prévoit à l'avance. Excuse-moi, je continue avec cette réflexion simplement de... La surprise vient de la différence. Si je ne vois que la même chose, que le même, le répétitif, toujours, il n'y a pas de surprise, c'est la routine. Alors que c'est forcément la différence qui va me surprendre, me prendre par surprise.
Ouais,
et je pense que ce que tu es, plus exactement, pas ce que tu es, ce que tu sembles être aux yeux des gens, avec ta différence, permet la surprise.
Permet la surprise.
Ouvre la surprise.
Ça c'est vrai. Et puis, l'émerveillement. Il y a vraiment la difficulté à se laisser surprendre, c'est-à-dire à se laisser dérouter.
Dérouter.
Voilà. Quitter.
Sortir du confort.
Voilà, c'est ça.
Et du conformisme.
Et aussi à se laisser émerveiller. Quelque chose chez les enfants qui est émerveillé. Quand ils me voient, je ne sais pas ce qu'ils voient dans leur petite tête,
ouais.
Mais il y a quelque chose à la fois qui les étonne et qui parfois les émerveille.
Je pense que ce tu as dit tout à l'heure, ce qu'ils voient. c'est magnifique ce que tu as dit tout à l'heure. Ils voient le même et le différent,
ouais, c'est ça.
En même temps.
Ah oui, c'est ça. Donc,
ça les émerveille.
C'est-à-dire
qu'ils voient une petite personne, comme eux, qui sont petits. Ils savent qu'ils sont petits par rapport aux adultes.
Oui.
Et en même temps, ils voient que cette personne, elle n'est pas un bébé, elle n'est pas un enfant, elle parle avec une adulte, enfin avec une autre voix. Alors, évidemment, pour eux, les deux choses ne vont pas ensemble.
Oui.
C'est pas normal. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Et du coup, ils acceptent d'ouvrir les yeux et de s'émerveiller.
De s'émerveiller.
Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a de ça?
Moi, je pense, oui, il y a de ça.
Ouais.
Je pense.
Mm-hmm.
Mais c'est toute la grandeur de l'enfance, en fait, qui accepte l'émerveillement et qui l'accueille pour ce qu'elle est.
Pour ce qu'elle est.
Voilà.
Sans juger.
Sans juger, voilà.
Eh bien, nous allons essayer ce soir, cette nuit, de nous émerveiller, de laisser l'émerveillement nous gagner. Et l'émerveillement, pas devant ce qui nous fait plaisir, pas ce qui est agréable, l'émerveillement devant l'autre, qui est toujours autre que moi, mais qui, précisément parce qu'il est autre, me permet de devenir moi-même face à lui. Je suis ce que je suis parce que l'autre, il est ce qu'il est. Tu le sais comme moi, Caroline, hein, l'un des premiers émerveillements, c'est au tout début de la création. Ah, celui-ci, c'est l'os de mes os.
Oui.
Et la chair de ma chair. C'est l'homme devant la femme.
Oui.
Et bien sûr, la femme qui entend ce cri d'émerveillement, d'admiration. On est semblables. Et différents, hommes et femmes.
Oui, c'est ça.
Allons jusqu'au bout de la nuit.
Hi. Hi. Hi.
Hi.
D'être en colère.
Ça m'arrive. Parce que je suis humaine.
Eh oui, parce que tu es humaine. Oui, parce que, en fait, parfois, on entend que évidemment, le regard des autres peut mettre en colère. J'ai ici sous les yeux un texte d'Alexandre Jolien, qui est un philosophe, mais pas, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je dis mais, c'est significatif, qui est philosophe et qui est handicapé. Et qui vit cela et qui essaie de travailler là-dessus. Et même à un moment donné, il s'appelle le philosophe nu, hein, à nu. Donc, il a écrit un premier ouvrage qui s'appelle Éloge de la faiblesse, Alexandre Jolien. Et puis, comme si c'était un dialogue entre Socrate et lui, Alexandre. Et donc, il fait réfléchir, il essaie de réfléchir. Là, à un moment donné, Socrate pose la question. Que dire des gens de l'extérieur? Quel est le regard que les gens de l'extérieur? Voici ce que répond Alexandre. Il projetait des images négatives sur les pensionnaires du centre. Il s'agit du centre où il habitait. Souvent, à mon passage, les gens chuchotaient entre eux, se tapaient du coude. Pauvre garçon, pauvre petit. Ils arrivaient presque à me déstabiliser, ces foudres de guerre. Néanmoins, en mon fort intérieur, j'étais convaincu d'avoir beaucoup de chance. Parents formidables, amis véritables, camarades de jeu plaisants. Pourtant, en force de l'entendre, mis en doute, la certitude que je n'étais finalement pas plus malheureux qu'un autre risquait de s'étioler. Inconsciemment, je percevais et comprenais que ma présence était pour beaucoup de personnes associée à un échec, un accident. J'incarnais pour eux une sorte de souffrance qui les culpabilisait. Ils se rendaient presque coupables de mon handicap. Je jouais le rôle d'une mauvaise conscience. Mmh. Est-ce que ça te semble juste ou comment toi tu le vis?
C'est marrant cette façon de reprocher aux personnes de projeter des choses tout en projetant nous-mêmes quelque chose de la pensée d'autrui. Mmh. C'est-à-dire, je ne sais plus à un moment, dans ce que tu as lu, il dit... Il projetait sur moi des pensées négatives.
Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, hier idée. Elle ne m'a pas lâché d'une ombre quand j'avais mal, même qu'elle pleurait.
Ses réactions, pauvre garçon, pauvre petit, il n'a pas une chance.
Alors, bah, je sais pas. Alors, bah, par exemple, moi, il y a un truc dans l'évangile, j'aime bien Jésus quand il voit une situation de souffrance. Mm-hmm. Il est saisi de compassion.
Saisi voilà. De compassion.
Toujours saisi de compassion, Jésus. Alors aujourd'hui, quand on dit ça, on va dire oh là là, il a pitié. Non, il est saisi de compassion. Ça veut dire il y a quelque chose dans ses entrailles qui est remué à la vue de la souffrance d'autrui.
Exactement. Donc il se laisse toucher.
Il se laisse toucher.
Au niveau des entrailles. Donc voilà. il ressent quelque chose en profondeur. Et donc ça te semble normal, ça te semble normal que les gens, quand ils te voient, quand ils voient Alexandre Jolien, quand ils voient d'autres qui sont apparemment, en tout cas au niveau extérieur, différents, ben qu'ils ressentent quelque chose.
Voilà, qu'ils ressentent au moins quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Après, je pense que c'est toute la difficulté va être d'avoir un juste regard sur ce que la personne va renvoyer et sur ce que nous-mêmes, on se renvoie de nous-mêmes.
Oui.
C'est-à-dire, si on...
C'est-à-dire, est-ce que c'est le rapport que tu as à ton propre corps?
Oui, c'est ça.
Et à l'image que tu en as,
que tu
en donnes.
Qu'on en donne. Et puis, l'image aussi qu'on a de l'autre. Parce que si
oui.
Déjà, d'entrée, on voit l'autre comme un ennemi...
Oui.
Voilà, quelqu'un qui va nous juger, qui va, bah, de suite, de fait, ça ne va pas aller bien. Si on se voit comme un grand moralisateur, comme quelqu'un qui a peut-être plus de chance qu'autrui,
mm-hmm.
ça ne va pas non plus, parce qu'on a une hauteur qui n'est pas en place. Mais si on se voit comme au même niveau, c'est-à-dire
mm-hmm.
avec nous aussi cette capacité à juger l'autre, ce qu'il fait,
mm-hmm.
quand il dit ça, en fait,
mm-hmm.
lui aussi il juge.
Et
voilà.
Oui.
Il n'a pas forcément un principe de bienveillance puisqu'il projette sur les autres des pensées négatives.
Mm-hmm.
Voilà, et ben là, dans les deux cas, je trouve que c'est un porteur de vie.
Donc, autrement dit, aussi bien dans le regard des valides que de ceux qui sont porteurs d'un handicap, tout le monde doit réviser son jugement finalement.
Exactement, et puis être un peu plus détaché par rapport à ce que les autres peuvent bien penser de ce qu'on est. En fait, le plus important, c'est de savoir comment on se perçoit. Comment on se perçoit, et je crois que si on se perçoit bien, mais en vérité, pas avec une espèce de complexe de supériorité caché.
Ni d'infériorité.
Voilà, ni d'infériorité, mais souvent le complexe de supériorité cache un complexe d'infériorité.
On est bien d'accord.
Voilà. Mais je crois que là, du coup, la relation à l'autre, elle va être plus sereine. Que les gens, ils se posent des questions, que les gens aient un peu de, voilà, le pauvre, bah, c'est humain.
C'est humain, c'est normal.
C'est humain.
Par certains, bien des aspects, c'est normal qu'il y ait cette première réaction. Après, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire?
Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire de
et
ça?
Et voilà, et nous, qu'est-ce qu'on va faire quand on reçoit ce regard-là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Peut-être que c'est aussi la réconciliation entre... l'image et le réel.
Ouais, c'est ça, l'image et le réel, notre vocation et voilà, les psys, enfin, j'ai pas fait beaucoup de philosophie, j'en ai fait en terminale, mais mm-hmm. l'histoire du moi et du surmoi, mm-hmm. ce qu'on a en vérité et ce qu'on projette de soi. Mm-hmm. Et bon, moi, en tant que catholique assumée, mm-hmm. je pense que en fait, ça ne peut être bien vécu qu'à partir du moment où on s'est placé sous le regard de Dieu, qui lui nous voit comme voilà comme une merveille, un prodige, c'est dans les psaumes. Hein.
Oui. Je te rends grâce pour la merveille que je suis, dit un psaume. Voilà, oui.
C'est ça. Et il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. Moi, j'aime bien.
Du point de vue de Dieu, effectivement, il n'y a pas d'erreur de casting, il n'y a pas d'erreur médicale, de fabrication. Il n'y a pas d'erreur de fabrication.
De fabrication, simplement, ouais. Il y a une situation et il dit je mets toutes choses devant toi, la mort et la vie, choisis la vie. Choisis la vie avec ce que tu as, avec ce que tu es, mm-hmm. et tu vas voir que ta vie va être féconde. Voilà. Alors moi j'aime bien penser, et ça je voudrais vraiment, je te pose la question, mais c'est vrai que j'aime bien penser que bah, dans mon corps ressuscité, corps glorieux, il y aura mon fauteuil. Alors moi j'aurai un glorieux fauteuil.
Un glorieux fauteuil.
Qui passe à travers les murs.
Qui passe à travers les murs, excellent. Voilà. Excellent, qui ne dépend pas des lois physiques, de la pesanteur, mais qui soit capable.
Ouais. Parce que Carolina sans son fauteuil, c'est pas Carolina, et c'est pas une croix, mon fauteuil n'est pas une croix, c'est mon identité, de même que je suis femme, je suis handicapée, je ne suis pas porteur d'un handicap comme on l'entend,
voilà.
Parce que je suis handicapée.
D'ailleurs, je l'ai dit juste avant, tu vois, il y a bien des choses encore à corriger. Oui, non.
Je suis handicapée de bout de mes cheveux jusqu'au bout de mes pieds, voilà. Ça intègre toute ma personne et toute ma vision du monde. Mm-hmm. Par contre, effectivement, ça constitue une limite, mais enfin, être humain, être homme avec un corps, ça constitue une limite aussi. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
Exactement.
Bah, faut se laisser traverser par la grâce, c'est-à-dire accepter que cette limite nous dépasse, enfin nous permette par Jésus d'être dépassé. D'être dépassé, c'est-à-dire qu'on puisse voir au-delà, qu'on puisse être sauvé, accepter d'avoir besoin d'être sauvé, pas guéri. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup Jésus il fera en sorte qu'on soit plein.
C'est pas qu'on efface tout, voilà, qu'on efface tout et on recommence. C'est pas ça.
Mais simplement d'en faire quelque chose. Par exemple, moi j'aime bien dire que je prends pas de place parce que je suis très petite.
Je prends peu de place.
Donc voilà, quand il y a des histoires de problèmes de couchage, on peut être à deux sur un matelas parce que moi je suis plus petite. Enfin voilà, en faire quelque chose de positif, de voir le bien qu'il y a là-dedans.
Oui, je trouve que ça rejoint ce que tu disais de la bienveillance.
Oui.
Voir bien, hein, littéralement, bienveillance. Hein, alors que voir mal, c'est malveillance.
Oui, c'est ça.
Donc, rectifier son regard. Oui. Et comme on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes, eh ben on a besoin de l'oculiste. On a besoin de verres correcteurs. Et ça, je crois qu'effectivement, en tout cas, c'est ce que tu dis, que la grâce de Dieu permet progressivement de corriger ce qu'il y a de malveillant pour que ça devienne bienveillant, comme Dieu lui-même est bienveillant, puisqu'il nous voit avec ce regard-là qui ne nie pas les différences, qui ne nie pas les limites, mais qui les voit autrement, qui les voit dans une perspective de bien.
Et qui les transfigure.
Et
ça, mais pour ça, il faut accepter d'être pécheur, c'est-à-dire accepter de ne pas bien voir.
Accepter de ne pas bien voir, accepter les limites.
Avoir besoin d'un ophtalmologue, avoir besoin d'un médecin.
Et oui.
Et ça ne peut pas non plus être vécu en dehors de l'amour. Donc les personnes qui vont dire aux personnes malades ou handicapées, oh là là, t'as de la chance, parce que tu peux porter la croix avec Jésus.
Oula.
Enfin,
oui, on s'entend, mais on entend parfois, oui.
Voilà.
Oui.
Oui, mais il faut voir la relation d'abord de base qu'on a avec Jésus.
Absolument.
Et puis, même dans l'Église. Voilà.
Exactement.
Et même en Oui, mais si on n'a pas l'amour de Jésus, si on ne travaille pas, on ne peut pas aller de la grotte à la croix sans passer par Nazareth. Hein. Donc,
Et la chance, c'est de se laisser sauver. Et ça, tous, on a cette chance-là, si on veut bien la saisir. Encore faut-il le comprendre. Encore faut-il
l'accepter, le désirer. Au moins, si on n'y arrive pas, au moins avoir le désir du désir et un désir assumé.
Absolument. Eh bien, nous allons demander cette transfiguration de nos corps, de nos pauvres corps mortels, pour qu'ils soient habités par une vie, une puissance qui vient d'ailleurs, mais qui nous traverse et qui permet à nos corps de transfigurer même les fauteuils et de permettre même aux fauteuils de rentrer dans le ciel sans aucun obstacle, de mur, de porte, parce que nous nous laissons traverser par cette gloire.
Et rendre grâce pour ce qu'on est.
Ouais. Je te rends grâce pour la merveille que je suis. Amen. Qui que je sois, je te rends grâce. Eh bien, Carolina, merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de la nuit. Désirons cette transfiguration qui nous fera voir l'aurore, cette aurore, celle qui pointe déjà ce nouveau jour, le jour où il n'y aura plus de nuit, justement, parce que ça sera le jour sans fin. Eh bien, c'est ce que le...
Qui commence à être vécu aujourd'hui.
Ce jour, il pointe. Ouais, c'est ça. Et c'est la pointe du jour que nous voulons viser. Merci, Carolina.